C'est vraiment très beau, très très agréable, et je trouve surtout tout à fait passionnant, vu qu'on est ici pas juste pour se faire plaisir ou se faire des compliments, mais pour travailler ensemble. Et je pense que c'est ça qui je pense nous associe non seulement cet après-midi, mais aussi à d'autres moments de la vie. Alors c'est vrai que je voudrais faire un bref exposé, enfin je dis toujours bref, mais au fond j'utiliserai le temps qui m'est donné, puis voilà. Un exposé qui est en écho à un cours que je suis occupé à donner pour l'instant, et donc je sais que parmi vous, l'un ou l'autre suit ce cours, non seulement physiquement, mais pas seulement avec l'absence, mais aussi en présence. Et donc il y a des échos que vous avez déjà entendus à certains moments, mais c'est vrai que je voudrais évoquer un chapitre que je n'ai pas le temps d'évoquer au cours et que je voudrais développer maintenant. Et donc le titre, c'est effectivement le mot de verbe vico, la métaphorologie. La métaphorologie, c'est une notion qui est développée par Blumenberg lui-même, tout ça dans l'idée que la métaphore vous donne à penser. Alors si je suis très heureux de m'adresser à vous cet après-midi, c'est parce que vous et moi, nous avons un point commun qui n'est pas forcément superficiel, peut-être la barbe pour certains d'entre nous, c'est vrai, et de toute façon déjà plus de la même couleur que la mienne. Mais derrière ces choses-là, ce temps qui passe, je pense que vous et moi, nous avons choisi de donner un peu de notre vie à l'exercice de la philosophie, un peu de notre vie. Alors ce choix, de cet engagement, cette subjectivation militante, se dit, se refait silencieusement chaque jour, même si l'habitude, l'automatisme, la logique capitaliste de l'amortissement d'un investissement, peut-être même, fait que peut-être le souvenir conscient, la trace inconsciente de ce choix, en tout cas nous encourage à poursuivre le travail. Alors au cœur de ce travail philosophique que nous entretenons, vous et moi, même si moi actuellement je suis salarié pour le faire, vous peut-être pas encore, mais au bout du compte c'est pas l'essentiel. Au cours de ce travail philosophique, nous rencontrons, vous et moi, quelques grandes questions en clé de voûte, du genre la connaissance de soi, l'interrogation sur l'être en tant que tel, l'évidente inquiétude ou l'incertaine consolation à propos du mal, et puis la question du sens du monde visible, des réalités invisibles à nos yeux, mais saisissables par nos instruments, par exemple, et aussi le sens d'un inconnaissable qui ne serait pas, en plus, insensé. Alors, dès le départ, sans doute, l'intuition, l'hypothèse, que la réalité ne se réduit pas à ce qui peut, le moment venu, être vu, ni à ce qui peut, le moment venu, être dit. Et ainsi, ma lecture de Blumenberg s'oppose contre l'avis de Blumenberg lui-même, mais j'ai appris cet après-midi que nous étions libres de penser ensemble, s'oppose à ce que j'appellerais un éclat de Wittgenstein, à savoir l'idée qu'en aucune façon, contre l'avis de Wittgenstein, en aucune façon il ne faudrait taire ou faire taire, par exemple, autrui ou le monde, même s'il importe de souvent se taire. Le verbe taire, en philosophie, ne serait à mes yeux acceptable qu'à la forme réfléchie. La critique, en effet, n'est pas réduction de l'autre au silence, mais capacité, pouvoir d'analyse, d'élucidation, d'évaluation, et pourquoi pas de vidange, comme on l'a dit il y a quelque temps. Je pense qu'en disant ça, je me situe au cœur d'une lecture, d'une certaine lecture orientée que j'assume de Blumenberg. C'est ainsi que depuis toujours, le philosopher, est un métier du concept, comme l'ébénisterie est un métier du bois. L'une et l'autre discipline ne se réduit pas à l'art pour l'art. Il s'agit pour l'une de construire un meuble solide, pratique, beau, et pour l'autre de dévoiler quelque chose d'une réalité dont on sent bien qu'elle ne se réduit pas à nos représentations et à nos sensations. Il s'agit de se mettre à l'écoute du logos ou du li. Le li, en chinois, vous le savez, ce sont les veines du jade. Le logos, on pourrait le nommer la fibre du bois. À chaque fois, il s'agit de rejoindre une forme de principe de la pensée et des choses. assez vite, dès avant Platon et déjà chez Héraclite, et c'est vrai aussi pour plusieurs penseurs confucéens, le principe, donc le logos de ce côté-ci de la planète, le li de l'autre côté, si vous voulez, ce principe promet une compréhension qui est aussi une intercompréhension. Autrement dit, une saine subjectivité et une authentique intersubjectivité. À l'opposé des images, entendues comme fantaisie, qui seraient les fruits d'imagination chaque fois individuelles, ces auteurs cherchent des concepts qui puissent décrire sans dérive, qui puissent ouvrir un monde fondamentalement commun, un monde partagé, un monde de sens, un koinos cosmos, disait Héraclite, alors que les rêves ou les fantasmes de l'imagination sont, comme le dira cette fois Malebranche, au fond, tout autre chose, exactement comme les douleurs de la sensibilité, à savoir des choses miennes et uniquement miennes. Vous connaissez peut-être cette formule du traité de morale de Malebranche, où il est question de la connaissance de la vérité qui est d'entrée de jeu partagée, et de ma douleur qui est radicalement mienne, et donc impartageable. On pourrait dire que les fruits de mon imagination, d'un point de vue classique, sont aussi radicalement miennes que la douleur de mon pied, puisque c'est l'exemple qui avait été pris tout à l'heure. À l'opposé donc de ce monde idios, l'idios cosmos, le concept, et donc pas les métaphores, puisque c'est de ça que nous avons parlé, bien entendu, les concepts ouvriraient quant à eux, les concepts, un monde commun. Le clivage se trouve donc ici entre, d'une part, le fruit de la raison, qu'on va appeler le concept, et qu'on va bientôt nommer la terminologie chez Blumenberg, et d'autre part, le fruit de l'imagination. Le premier fruit, celui de la raison, est commun, on pourrait dire communautaire, l'autre est individuel, idiosyncrasique. Le premier se donne à une compréhension commune, l'autre est affaire d'interprétation privée. Le premier appartient à ce qu'on va nommer un réseau, l'autre appartient radicalement à un individu. Le logique, c'est bien l'ordre reconnu par plusieurs au moins. L'imaginaire est une forme d'ordre local, c'est-à-dire quelque chose de très proche du désordre. L'idiotisme n'est évidemment pas loin. Fondamentalement, dans ce modèle, où je vais faire intervenir Blumenberg à la manière d'un catalyseur chimique, fondamentalement, dans ce modèle, sens commun d'un côté, sens individuel de l'autre, sont tout de même de la même étoffe. C'est-à-dire que le sens ne constitue pas un double de la réalité, des situations et des objets. En réalité, le sens, qu'il soit partageable, partagé ou pas, ce sens est indéfectiblement lié à cette réalité sans s'y réduire. C'est dire que, dans les deux cas, il existe une certaine autonomie du sens par rapport à la réalité qu'il manifeste, d'une certaine manière, qu'il présente à sa façon, qu'il traduit assez librement. Au bout du compte, dans l'idios cosmos, il y a bien signification, mais signification qu'on va dire irréductiblement individuelle. On n'est pas dans l'insensé. Le monde individuel n'est pas le monde de l'insensé. À première vue, le sens partagé, le sens conceptuel, le sens terminologique, le sens partagé passe pour relativement étroitement lié aux états de choses, tandis que le sens idiosyncrasique n'aurait qu'un rapport assez lâche avec ces états de choses. De là à classer les sens en objectifs subjectifs, entendez les sens objectifs en tant que partagés intersubjectivement dans le temps et dans l'espace de la planète et des cultures, le concept de triangle par exemple, et puis le sens subjectif qui aurait quelque chose à voir avec le vécu, difficilement exprimé sans doute par une espèce de Robinson qui en plus serait endormi. Alors quand Blumenberg, on se trouve ici à la fin des années 50, quand Blumenberg développe ses recherches métaphorologiques, c'est le mot qui le fonde, je reviendrai sur le terme d'ailleurs composé, parce que vous entendez tout de même métaphore, logique, hein. Ben, Blumenberg croise évidemment ce débat épistémologique un peu à la manière d'un plan géométrique qui vient croiser un autre plan, c'est-à-dire qui ouvre une nouvelle dimension de description en passant d'une vision à deux dimensions, par exemple, à une perception plus complexe, par exemple, une perception en profondeur. L'ambition de Blumenberg, elle est radicale, il s'agit bien de croiser un certain nombre de descriptions qui sont déjà largement utilisées, par exemple les descriptions du concept relativement universel et objectif et de l'image, qu'on pourrait dire purement individuelle, dans le sens qui est défini ici. Ce qui apparaît, c'est que les métaphores que l'on va suivre désormais ne sont pas des concepts, mais ne sont pas non plus des produits d'une imagination seulement individuelle, parce que les métaphores, dira Blumenberg, et nous en faisons l'expérience depuis le début de ce colloque entre nous, les métaphores sont largement partageables. Si je vous invite à regarder le pied de la table, personne ne sera surpris, même si nous parlons de texanerie, de regarder le pied de la table. Ces métaphores, qui sont peut-être, comme les veines de Kawabata, plus ou moins endormies, c'est peut-être vrai, ces métaphores sont partageables, elles sont identifiables. Maintenant que je vous l'ai dit, vous allez les entendre, les métaphores qui viendront assez naturellement dans mon discours, elles sont identifiables et généralement, sauf enfin, exposées parce que tout simplement tout le monde est un peu fatigué, elles sont compréhensibles dans une communauté assez large, sinon universelle. Je commence à comprendre un certain nombre de métaphores taoïstes. Ce n'est pas donné d'avance. D'où la nécessité de revoir complètement, c'est la conviction de Blumenberg, de revoir complètement les typologies classiques et, de façon globale, les catégories du sens. C'est certainement un des thèmes fondamentaux du travail de celui que j'appelle l'encyclopédiste du XXe siècle, c'est-à-dire Hans Blumenberg. Alors, ce que je voudrais faire, ayant posé cette question un petit peu généraliste, c'est tout simplement attirer votre regard sur les rapports qu'entretient ce philosophe allemand du XXe siècle, hein, il est né en 1920 et meurt en 1996, avec un auteur, un napolitain des XVIIe et XVIIIe siècles, Jean-Baptiste Vico, que bien des choses séparent, hein, évidemment, mais je pense qu'une conviction fondamentale unit pour l'essentiel, j'ai envie de dire, au-delà des siècles. Pour l'un comme pour l'autre, pareillement lecteur critique du rationalisme classique et de Descartes en particulier, mais pareillement séduit par la pensée ou l'écriture ou le style de Montaigne, d'une part, de Spinoza sans doute, et puis d'autres auteurs moins connus, pour l'un et pour l'autre, Blumenberg et Vico, il y a cette conviction que connaître est fondamentalement une affaire d'image, d'imagination, bien avant la formation ou la formalisation des concepts. Autrement dit, pour Vico, qui vit donc à la fin du XVIIe siècle jusque, disons, le premier tiers du XVIIIe, pour Vico et pour Blumenberg, les rationalistes classiques du XVIIe en particulier, Descartes, hein, je l'ai déjà dit, n'ont pas raison, ces auteurs n'ont pas raison de congédier les métaphores pour installer sur l'autel de la raison le seul concept clair et distinct. J'aurais bien envie, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, de développer, ce sera pour une autre fois, de développer le rapport de Blumenberg à un certain Spinoza, notamment celui du Tractatus, celui pour qui le Tractatus est d'abord l'art de relire, enfin, et de trouver le sens des Écritures. Le Tractatus herméneutique, on pourrait dire. Alors, ce que je voudrais faire avec vous, là, pendant une grosse demi-heure maintenant, dans les limites de cette présente intervention, ça n'est évidemment pas, ça serait ridicule, hein, de vouloir esquisser l'histoire de la fonction métaphorique dans la connaissance réputée rationnelle, philosophique ou scientifique, parce que là, nous aurions à nous attarder d'abord fondamentalement sur Nietzsche et sur Derrida, par exemple. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit pour moi juste d'évoquer comment, dans le développement de la métaphorologie de Blumenberg, grosso modo entre 1960 et 1979, c'est ça l'âge d'or de la métaphorologie chez lui, et ben comment effectivement Blumenberg va retrouver, valider, solliciter, interpréter quelques intuitions de Vico. Premier temps, deuxième temps et puis conclusion. Premier temps, le programme de la métaphorologie, nous sommes en 1946, on n'est donc pas encore dans les années 60, Blumenberg publie un premier article, hein, que, à ma connaissance, qui parle de la sprachliche Wirklichkeit der Philosophie, hein, donc la réalité d'effectivité sprachlich, langagière, je le dis comme ça, de la philosophie. Vous auriez pu me dire c'est déjà du Gadamer, non, c'est déjà du Blumenberg. Dans ce petit texte, qui n'est pas très très connu, Blumenberg développe déjà une critique du langage assez forte, puisqu'il interroge directement comment on peut mettre en lumière que des énoncés parlent de la vérité, et parlent de la vérité selon un certain mode. C'est-à-dire que ces énoncés qui parlent de la vérité, ça va être repris très largement dans le texte de 1960, ces énoncés qui parlent de la vérité utilisent des adjectifs. Ah ben oui, des adjectifs qualificatifs, c'est-à-dire des épithètes, comme vous et moi quand on faisait une rédaction à l'école, qu'on racontait le week-end, et que nous disions, c'est une métaphore qu'on trouve souvent chez Quintilien et puis chez Blumenberg, nous on n'écrit plus en latin, pratum ridet, c'est-à-dire la prairie sourit, les champs sont joyeux, enfin ce genre de choses. Et bien effectivement, les énoncés sur la vérité, nous parlerons de la vérité nue, de la vérité lumineuse, entière. Avec certains d'entre vous au cours, nous avons étudié la métaphore de la vérité puissante. Voilà, c'est autant de présentations langagières, imagées, d'une vérité qui fluctue, hein, ces présentations fluctuent, au gré des aspirations individuelles, bien sûr, mais aussi des perspectives envisagées. Et on est très loin, fait remarquer Blumenberg, d'une représentation qui serait stable, d'une stabilité définitionnelle qui pourrait faire croire, dit-il en 46, qui pourrait faire croire à l'unité de la vérité. Vous le savez peut-être, les travaux à proprement parler commencent en 1960 avec les paradigmes pour une métaphorologie. Je ne prends pas la peine de contextualiser très en détail, mais c'est l'occasion de dire que la philosophie allemande, à ce moment-là, est dans une phase extrêmement philologique, puisqu'on est en train de préparer un dictionnaire historique de la philosophie, et que donc pas mal de recherches constituent des espèces de travaux préparatoires pour la mise au point de ce dictionnaire proprement philosophique, un dictionnaire proprement conceptuel, et que donc, en Allemagne, on avait déjà les moyens à l'époque, on les a encore, eh bien, on décide de fonder une archive, qui est une revue, hein, qui est l'archive pour l'histoire des concepts, où on va pouvoir collectionner, récolter au fur et à mesure des recherches qui sont préparatoires à la mise au point de ce dictionnaire tout à fait conceptuel. Alors je disais, la période optimale commence en 60 avec les paradigmes pour une métaphorologie. En 79, elle se termine avec un texte assez connu qui est le texte « Naufrage avec spectateur », hein, et notamment avec une espèce d'appendice intitulé Perspective sur l'inconceptualité qui me servira de conclusion, parce que en réalité, dès la fin des années 70, on dira que Blumenberg comprend qu'il s'est focalisé sur une partie visible, et c'était légitime, de l'iceberg, c'est-à-dire de la métaphore, et qu'il s'agit de regarder l'invisible qui renvoie à une conception proprement ontologique, effectivement, de l'être comme inconceptuable, fondamentalement. Pour Blumenberg, la question est autant ontologique que anthropologique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la question de l'utilisation raisonnée des métaphores, vous savez qu'en 60, Vince Wagner, de son côté, publie un texte qui s'appelle Van, qui étudie le délire des psychotiques et notamment le jeu de la métaphore chez les psychotiques. On est dans deux mondes descriptifs différents, même si on a des soucis pour partie commune. Donc pour Blumenberg, on vise bien l'utilisation raisonnée des métaphores, et cette utilisation des métaphores qui cherche à décrire la réalité, c'est ça qui est en jeu, renvoie fondamentalement à la situation de l'homme au monde. Alors, vous connaissez peut-être le gros volume de Beschreibung und der Mensch, donc la description de l'homme qui est paru en 1981. Cette description de l'homme en témoigne. Il s'agit d'un long essai d'anthropologie où Blumenberg va montrer qu'il faut toujours partir d'une espèce de Geworfenheit, hein, de Geworfensein. Il faut partir d'un être jeté au monde pour comprendre la situation de l'humain au monde qui est radicalement face, qui se trouve radicalement face à ce qu'on va appeler un réel au sens lacanien, je crois qu'on peut le dire comme ça, c'est-à-dire un réel oppressant, brut, homogène, massif. pourrait peut-être penser à une forme d'ilia, hein, d'une certaine manière, un réel qui se donne comme un absolu d'un type particulier, dit Blumenberg, puisque c'est un absolu mais qui ne se sépare pas, qui n'est pas séparé, hein, pas séparé et donc étouffant parce que trop proche. Et la question de l'anthropologie chez Blumenberg, c'est la question, vous le savez, de la prévention, c'est-à-dire de la protection, c'est-à-dire de la survie. Qu'est-ce que l'être humain peut faire pour survivre face à la massivité du réel? Comment se libérer, d'une certaine manière, de cet absolu fondamentalement stérilisant et immobilisant? Comment donner du sens à cette masse, d'une certaine manière, donner du sens de manière plurielle à une réalité qui est fondamentalement opaque et muette? Clin d'œil. Alors, tout de suite, clin d'œil, opaque et muette, c'est une prédication, ce sont des mots utilisés par Ricoeur à propos de l'expérience vécue qui attend d'être dite. Eh bien, je crois qu'il y a, là c'est un petit clin d'œil par rapport à la métaphore ville, évidemment, vous n'avez pas le temps de développer ça, il faudrait aller voir aussi cette question de cette réalité opaque et muette. Eh bien, d'une certaine manière, nous dira Blumenberg, il suffit de la faire parler. Ce réel, qui ne le demande pas, je vais le faire parler, quitte à jouer les marionnettistes. C'est un peu ça. Marionnettiste amateur, je serai poète. Marionnettiste plus fin, mieux reconnu, je serai scientifique. Il ne s'agit pas du tout pour Blumenberg de perdre le monde. Il ne s'agit pas de le perdre. Il s'agit au fond de découvrir dans le monde tel qu'il ne se donne pas d'une certaine manière ce qui va être l'enjeu, c'est-à-dire le monde de la vie. Un monde de la vie qui n'a pas encore reçu son nom, mais finalement, peu importe. Une perte du monde qui se produit chez les classiques, qui se produit chez les rationalistes classiques. Pourquoi? Parce que ceux-là ont développé une culture, dit Blumenberg, qui s'est focalisée sur l'unique conscience d'un sujet connaissant. C'est-à-dire un sujet qui va poser, je cite, une compréhension de soi absolue et qui règne dans le projet de certitude des temps modernes. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire jusqu'à présent, mais vous le savez peut-être. Dans ses très nombreux travaux historiographiques, Blumenberg interroge ce qu'il appelle la légitimité des temps modernes. Et il montre dans un autre ouvrage qui est la Lettre par Kaiserfeld, la lisibilité du monde, il va montrer comment, à l'époque moderne précisément, la métaphore du monde comme livre est particulièrement utilisée par les auteurs. Il y a donc une espèce de tentative dramatique d'expliquer les choses pour l'être humain, de s'expliquer avec la brutalité du réel, en sorte d'en faire un monde, de ce réel, inhabitable, d'en faire un monde habitable. Et qu'est-ce que c'est qu'un monde habitable? C'est un monde qui soit aussi pensable, imaginable, j'aurais envie d'ajouter, visible, on peut le dire, hein, dans ce sens-là. Et c'est ainsi que Blumenberg prétend inscrire une espèce d'anthropologie philosophique dont je crois qu'il considère qu'elle est appelée inconsciemment par la phénoménologie, quelles que soient les dénégations husserliennes, mais nous pourrons en reparler si vous le voulez. Cette anthropologie, à la manière de Blumenberg, est une anthropologie sans concession, elle n'est pas naturaliste, même si elle tient compte de la nature et des données utilisables par ses auteurs, qui ne connaissaient pas les neurosciences, mais qui pointent déjà dans cette direction-là, mais elle n'est pas non plus métaphysique, et j'ai envie de dire, cette anthropologie n'est pas non plus misérabiliste. Dans ce sens-là, elle n'est pas du tout existentialiste. Hans Jonas, qui ne s'en est pas occupé, je pense, le confirmerait. Et j'en prends une formule de Trierweiler, qui est un des excellents commentateurs, traducteurs de Blumenberg, pour dire qu'il s'agit bien d'une anthropologie de l'affirmation de soi de l'homme. L'affirmation de soi de l'homme face précisément au réel. Et donc cette anthropologie aura à connaître la technicisation, la transformation du monde de la vie, mais plutôt cela que la perte ou la dissimulation. Et donc, on pourrait considérer que Blumenberg nous invite à une philosophie de la pluralité des mondes. On n'est pas contre elle qui veut. Une philosophie de la pluralité des mondes, au sens où les mondes sont pluriels et où les expressions caractéristiques de ces mondes sont aussi plurielles. Il y a donc, chez Blumenberg, une forme de culture de la plurivocité. Il faut savoir que c'était un peu le sujet de sa thèse d'habilitation à Kiel, juste après la guerre. Je cite cette formule de Blumenberg, « Le rapport humain à la réalité est indirect, embarrassé, hésitant, sélectif, et avant tout métaphorique. C'est vrai à tout niveau, connaissance ordinaire, science ou poésie. Fin de citation. Alors, je ne vais pas revenir sur un détail que j'ai un peu développé lors du cours en montrant que l'anthropologie est une anthropologie de la néothémie. C'est une façon de redire un peu ce que j'ai posé à propos de cet être humain qui est jeté au monde, c'est-à-dire un être humain largement incomplet. C'est une anthropologie de la hilflosigkeit, c'est-à-dire de la désaide ou de la détresse. On est démuni fondamentalement. L'être humain est un Wesen, est un être à qui manque le Wesentlich, hein, ça tombe mal tout de même, c'est un être à qui manque l'être, c'est mal traduit, alors je vais dire autrement, c'est quelque chose d'essentiel à qui manque l'essentiel, voilà. Donc c'est quand même une forme de vulnérabilité, on peut la poser de cette manière-là. L'être humain est dans un état d'impréparation, d'indisponibilité, d'indisposition naturelle dès le départ, et qu'est-ce qu'il a pour s'en tirer? L'ars symbolica. D'être animal symbolicum. Ce n'est pas des mots par Blumenberg, vous savez sans doute, c'est des mots qui viennent de Cassirer, mais l'idée fondamentale qui est en jeu ici, c'est que le symbolique, l'art symbolique, et donc vous sentez venir la question de la métaphore éventuellement, cet art symbolique n'est pas une espèce de superstructure néocorticale qu'on peut utiliser, comme disait Nietzsche, quand on a l'estomac plein, c'est une des manières de s'emplir l'estomac le moment venu. On n'a pas d'autre choix. Et donc, à ce moment-là, pour parler à nouveau un peu comme Cassirer, tout ce qui est de l'ordre des formes symboliques, la science par exemple, la philosophie, la métaphysique, l'histoire, les religions, les arts et aussi la métaphore, tout ça vont permettre de constituer un monde. D'où cette petite formule assez jolie de Blumenberg, je cite, « Avoir un monde est toujours le résultat d'un art. » Avoir un monde est toujours le résultat d'un art, même s'il ne peut en aucun sens être une œuvre d'art totale, n'est pas Dieu qui veut, évidemment, nous y reviendrons dans quelques minutes pour terminer. Quel est le statut des métaphores chez Blumenberg? C'est assez simple, dès le départ, il y a à peu près deux niveaux, deux statuts. Il y a d'une part ce qu'on va appeler les Restbestände, les éléments de reste, les résidus. C'est ce qui reste quand la vidange n'est pas tout à fait complète. Hein. On va nommer ça métaphore résidu. Ce sont des restes, des vestiges, dit Blumenberg, qui sont laissés sur le chemin qui va du mutos au logos. Un petit peu comme le serpent qui laisse sa peau d'il y a bien longtemps. Hein, comme vous allez laisser vos souvenirs à l'université, bien entendu, pour continuer votre chemin ensuite. Bon. Donc il y a effectivement des espèces de restes, et ces métaphores résidus, on va les identifier comme anachroniques, elles sont provisoires, c'est très important pour Blumenberg, parce que chez les autres, c'est-à-dire les rationalistes, il n'y a de provisoire, vous le savez, que la morale, faute de mieux. Ici, on va pouvoir revendiquer le statut de provisoire. Fondamentalement, ces métaphores résidus ont un statut plutôt négatif. Et puis, il y a les Grundbestände, les éléments de fond, que les auteurs traduisent métaphores absolues, qui sont des éléments constitutifs fondamentaux, qui font des Übertragungen, c'est-à-dire des transferts, et ces transferts étant irréductibles à la logicité, dit Blumenberg, ils sont fondamentalement intraduisibles. Ils ne sont pas simplifiables au sens d'unité, au sens d'équation dernière. Ces métaphores sont ultimes. Aucun concept ne peut venir s'y substituer, en tout cas à un moment donné, et cela correspond sans doute plutôt à certains domaines ou à certains champs de l'être qu'à d'autres. C'est là qu'intervient une première allusion à notre ami Vico, dans la mesure où Blumenberg fait remarquer que l'existence de ce transfert intraduisible, le fait que certains types d'êtres ne peuvent se dire que par des métaphores, c'est ça qui est posé, hein, et bien ça renvoie, dit-il, à ce qu'il appelle une réserve sémantique inépuisable et irréductible, et sur ce point il fait allusion à Vico, je me permets de le citer, ainsi, dit Blumenberg, ainsi, c'est l'équation entre langage figuré et langage impropre qui devient contestable. Déjà, Vico a tenu le langage métaphorique pour tout aussi authentique que le langage que l'on tient habituellement pour tel. Bon, mais je dois la vérité de poursuivre la phrase de Blumenberg qui ajoute ceci, et ça permet de mesurer l'écart évidemment entre l'un et l'autre, sauf que, sauf que Vico, sauf qu'il est retombé, dit Blumenberg, sauf que Vico est retombé dans un schéma cartésien dans la mesure où il réserve au langage de l'imagination une place dans une époque antérieure de l'histoire. Fin de citation. Au fond, Vico a senti juste, mais il s'est trompé, je vais le citer bientôt, dans la mesure où pour Vico, ça c'est l'histoire des premiers hommes, des premières formes culturelles, qui est évidemment dépassée dans l'histoire des cultures. Alors cette identification de métaphore dite absolue a une portée tout à fait fondamentale, parce qu'elle oblige à repenser, c'est Blumenberg qui parle, le rapport entre imagination et logos. Alors je le cite à nouveau. Le domaine de l'imagination ne devrait plus être considéré seulement comme un substrat destiné à des transformations vers le conceptuel. Vous savez, un peu comme des choses un peu élémentaires qui vont se transformer, mais c'est juste le début des choses. Hein. Chaque élément devant, pour ainsi dire, être traité, transformé un à un, jusqu'à ce que le stock des images soit épuisé. Donc ça, c'est un modèle qu'on pourrait dire presque génétique, hein, ou paléontogénique, on pourrait le dire de cette manière-là. Donc il faut quitter cette vision, qui est aussi la vision de l'incubateur. Hein. On pourrait considérer que le langage poétique, le langage de l'imagination, est du premier degré. Alors Spinoza pouvait pas appeler ça hein, le niveau incubateur ou d'incubation, mais c'était sa idée. C'est déjà quelque chose, évidemment, mais c'est quelque chose qui doit conduire ailleurs. Il faut quitter cette vision. Et comment faut-il considérer le domaine de l'imagination? Je me permets de reprendre la phrase de Blumenberg, que je ne suis pas sûr de bien comprendre. Vous allez voir qu'elle est métaphorique, il dit ceci. Il faut le considérer comme une sphère catalytique, à partir de laquelle l'univers du concept, certes, s'enrichit constamment, mais sans pour autant transformer et consumer cette réserve fondatrice. Je suis sorti de ma voiture, je suis allé voir le pot catalytique pour essayer de comprendre. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris les tenants et aboutissants de cette métaphore qu'il faudrait analyser, disséquer d'une certaine manière, mais j'y comprends tout de même quelque chose, à savoir qu'il n'y a pas un matériau qu'il faudrait sublimer, transformer pour en faire du concept, et puis quand on a fait ça, ben, il n'y a plus rien, comme après avoir utilisé les briques pour faire un mur, ben, il n'y a plus de briques, mais ou quelque chose de différent qui serait une énergie, hein, l'énergie qui permet de dissoudre les gaz d'échappement, ça j'avais bien compris, avec un jeu de variation d'énergie précisément, qui ferait quelque chose qui ne se consume pas et qui est de l'ordre de l'enrichissement global. Catalyse, bon, métaphore, description du processus chimico-mental, pour moi la question n'est pas très claire, mais bref, peu importe, on a compris. Pour Blumenberg, la métaphorologie n'est pas comme doctrine, comme discipline. La métaphorologie, hein, comme discipline qui porte sur les métaphores, ça n'est pas la description d'une pauvreté. Ça n'est pas la description d'une approximation épistémologique. Au fond, une espèce de tératologie du concept. Il y a des concepts à cinq pattes, je suis désolé, ils ont été mal formés, vous voyez un peu le genre de choses. On n'est pas dans ce type de tératologie. On pourrait dire que la métaphorologie n'est jamais chez Blumenberg ce qu'on pourrait une science du défaut. En réalité, elle atteint, et voici à nouveau une allusion à Vico, elle atteint le soubassement de la pensée, le bouillon de culture des cristallisations systématiques, et elle dévoile aussi avec quelle audace l'esprit s'anticipe lui-même dans ses images et comment, dans l'audace de la conjecture, s'ébauche son histoire. Vous vous souvenez, nous en avons parlé un peu avec quelques-uns d'entre vous au cours en montrant la dimension hegelienne tout à coup de cette histoire. Hein. Comme si, dans une espèce de préface à la phénoménologie de l'esprit, il y avait une place pour le moment métaphorique. C'est un peu ça l'idée. Conclusion sur ce point, la métaphore, loin d'être une forme de défaite de la pensée, une forme de défaite provisoire de la pensée, la métaphore est bien un mouvement de conquête, c'est un engagement pour Blumenberg, c'est une audace, vous avez entendu le mot à deux reprises. Et je crois pouvoir dire que plus tard, Blumenberg va accentuer le panache du geste métaphorique en le détachant de son rôle de complément, hein, ce que Derrida pourrait appeler la marge hein, de la philosophie, le rôle de complément, la métaphore étant le complément nécessaire comme les oligo-éléments à côté d'une alimentation raisonnable, le jeu des concepts en formation, et progressivement, de plus en plus nettement, ce sera d'ailleurs mon dernier mot de conclusion, Blumenberg verra le jeu de la métaphore comme une explication irréductible avec un être radicalement inconceptualisable. On change complètement le statut. Il s'agit d'un devenir du concept qui commence bêtement dans la métaphore, ou brutalement dans la métaphore. Il s'agit de comprendre que la métaphore est l'outil unique pour dire ce dont on ne peut parler. Hein, autre clin d'œil à Wittgenstein. Alors, deuxième temps, le retour sur Vico. Hein, puisque j'ai dit que chez Blumenberg, Vico, je suis loin d'avoir lu l'ensemble des manuscrits de Blumenberg, j'en suis vraiment pas là. N'empêche, j'ai quand même travaillé systématiquement le corpus et on voit comment les références à Vico sont assez précises. Hein. Parfois curieusement absentes, notamment dans le traité d'anthropologie, et puis parfois très très présentes dans d'autres textes. Alors, revenons donc, si vous le voulez bien, à quelqu'un que je bats ma coulpe, nous n'enseignons pas dans la maison, ou très très peu, enfin on le nomme peut-être dans des cours de philosophie d'histoire, c'est-à-dire à Vico, dont je vous rappelle qu'il a été révélé du côté francophone, notamment par Michelet, mais à qui Carl Lewis a consacré un texte important, Horkheimer aussi, et puis naturellement bien sûr Blumenberg. Vico, vous le savez, c'est un peu comme Nietzsche, sauf que c'est un peu plus bas, il est professeur de rhétorique, ou professeur de philologie, c'est pas du tout un détail, bien entendu. Si vous avez un peu travaillé la question de la métaphore chez Nietzsche, vous avez dû vous souvenir qu'il enseignait la philologie et la rhétorique à Bâle. Et bien, c'est un peu le cas de notre ami Vico, hein, 100 ans plus tôt, si vous voulez, et lui, c'est à Naples. Alors, Vico, on le connaît comme une espèce de fondateur de la philosophie d'histoire, même si la formule est bien Voltaire, une espèce de premier romantique ou de pré-romantique, je l'ai déjà dit, qui s'oppose donc aux Lumières et à Descartes, c'est-à-dire à ce qu'il considère d'être des visions restrictives de l'intelligence, hein, comme si l'intelligence du monde, chez ses auteurs, était véritablement confisquée par une certaine forme de raison. Ça reste à montrer, je ne ferai pas cet après-midi, comment, pour Blumenberg, Vico se trouve très proche de Spinoza. En disant ça, je dis une forme de scandale historiographique, parce que ce n'est pas la lecture courante des choses. Je pense que c'est quand même assez intéressant de montrer comment peut-être une forme de néoconservatisme chez Vico renvoie à un certain nombre d'éléments qu'on peut lire, notamment dans le Tractatus, notamment quand on voit comment dans des œuvres qui ont... Allez, finalement, le Tractatus, c'est la publication en 1670, hein, si je ne me trompe pas, 1670, voilà, c'est ça. Ben, Vico, il va publier La Science Nouvelle, 1725, la deuxième édition, 44, la finale. On n'est pas tellement loin dans le temps. C'est intéressant de voir comment ces œuvres-là vont retravailler ce qu'on pourrait appeler la genèse des textes. La genèse, notamment la philologie génétique. Comment le chapitre 7 en Tractatus sur l'interprétation des Écritures rappelle qu'avant de sauter au ciel parce qu'on a dit que Dieu est un feu ou que Dieu est jaloux, il faut regarder comment l'hébreu biblique peut dire les choses, comment certaines métaphores sont des métaphores culturelles, etc., etc. Et donc il y a une espèce de, non plus de rasoir d'Occam, si vous voulez, mais de rasoir, on va dire ici, de Spinoza ou de Nietzsche ou de Vico, qui consiste à regarder quelles sont les tropes, c'est-à-dire quelles sont les formes rhétoriques qui s'imposent d'une certaine manière, sans, entre guillemets, sans intention particulière, avec des effets, mais sans intention particulière. Bien. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que Vico est plusieurs fois évoqué, j'y ai fait évidemment allusion, notamment quand Vico développe ce qu'on appelle une véritable logique de l'imagination. Hein. C'est dans un texte sur la pensée, la sagesse la plus ancienne d'Italie, où il est question d'une anti-première règle cartésienne. Hein. Dans ce sens-là, comme s'il y avait à écrire une anti-méthode cartésienne, c'est quelque chose qu'on retrouvera aussi à un autre moment. Au cours, j'ai eu l'occasion de montrer comment, chez Vico, on trouve à plusieurs reprises cette idée d'une force de la raison, et Blumenberg, qui a une grande culture, associe ça à Hume, et je me suis permis d'aller un pas plus loin en montrant comment, dans Proust et Lessing, notamment Deleuze, qui cite pas Hume sur ce point-là, va montrer qu'effectivement, la philosophie n'est que la victime de la force de la vérité. Hein, puisque, chez Proust, par exemple, c'est les pavés qui sont un peu déplacés sur le trottoir. Je débutais contre ces pavés, comme le bout de la madeleine, le cas échéant, comme telle ou telle chose. C'est ça qui va m'éveiller. Autrement dit, Ce n'est pas du tout moi qui cherche la vérité, j'en ai même pas grand-chose à cirer de la vérité, c'est la vérité véritablement qui me tombe dessus, hein, dans une forme de contrainte, de hasard, dit Proust, cité par Fin de Leuze. Bon, tout ça, c'est une façon de brouiller un peu les pistes et de montrer que la vérité puissante, la puissance de la vérité, c'est quelque chose qui est véritablement constant. Alors, Vico, je cite ici la chaîne Saint-Noir, hein. Vous avez peut-être eu l'occasion, Fabio, je suis un peu gêné de parler de Vico devant vous, parce que c'est votre terreau, je pense que vous travaillez encore largement.
Ça, c'est notre terreau.
Voilà, ben voilà. Voilà, je fais
l'expérience. Pas.
merci de votre patience. Mais comme ce sont des textes vraiment, vraiment fabuleux, c'est assez intéressant de voir comment Vico va développer assez systématiquement, c'est pas un auteur systématique, mais va développer cette idée d'une métaphysique poétique. Métaphysique poétique qui n'est pas celle des docteurs d'aujourd'hui, dit-il, mais qui est l'œuvre des premiers hommes, il faut l'entendre comme ça, des premiers hommes, c'est-à-dire des premières métaphysiques historiques qui viennent d'une sagesse poétique, insiste Vico, des premiers hommes qui sont incapables, je cite la version de Michelet, incapables de raisonnement et entièrement dominés par des sens vigoureux. Il y a donc bien une première faculté naturelle qu'on va nommer métaphysique, mais cette faculté naturelle, je vais y insister dans un instant, est l'œuvre plutôt de l'ignorance que de la compréhension. Ceci me paraît fondamental pour comprendre le dernier mot de Blumenberg sur la métaphore. Je reprends les choses, et puis je cite très très brièvement un fragment de Vico. On pourrait considérer, et on pourrait croire que Blumenberg le pense, on pourrait considérer que la métaphore est en réalité le souci de comprendre. Et ça paraît effectivement avéré. C'est un souci de comprendre. Et on pourrait considérer que l'authenticité ou la productivité, le caractère positif de la métaphore, c'est que dans ce souci de comprendre le tout, on comprend au moins quelque chose. C'est déjà pas si mal. Un peu comme ces doigts qui s'agrippent, ça tient, on retient au moins quelque chose, dans une espèce de version minimaliste. Et Vico, à ce coup de génie, et jusqu'à présent, je n'ai pas vu que Blumenberg, qui va penser ça aussi, rattache cette intuition à Vico, mais il le fait sans doute, parce que c'est un homme qui règle ses dettes. Vico a ce trait de génie de dire qu'en réalité, ces conquêtes métaphoriques chez les premiers hommes sont des conquêtes de l'ignorance, de la projection, de la non-compréhension. Il dit ceci, on en rediscutera si vous le voulez. La métaphysique raisonnée, entendez la métaphysique moderne, nous sommes au début du XVIIIe siècle. La métaphysique raisonnée enseigne ceci. Homo intelligendo fit omnia. Donc, l'homme, en comprenant, devient toute chose. Vieille tradition. Il nous semble que la métaphysique de l'imagination pourrait dire avec beaucoup plus de raison Homo non intelligendo fit omnia. Autrement dit, littéralement, l'homme, en ne comprenant pas, devient toute chose. Car l'homme, par son intelligence, poursuit Vico, car l'homme, par son intelligence, déploie son esprit et comprend les choses. Tandis que l'homme, dont l'intelligence est encore fermée, c'est les premiers hommes, crée les choses à son image, et en se transformant en elles, il devient, pour ainsi dire, ces choses humaines. Et voilà tout à coup que le processus métaphorique, dont on avait bien compris qu'il n'était pas seulement la première étape de la genèse des concepts, mais qu'il a à voir avec autre chose, le jeu métaphorique, que ce jeu métaphorique est progressivement ramené vers quelque chose qui n'est plus l'ordre de la connaissance, mais plutôt l'ordre de la connaissance. Et ce seront, je pense, les derniers mots sur ce point de Blumenberg. Et je conclue. Je conclue en évoquant le titre d'un article dont je vous ai pas parlé, d'un excellent commentateur de Blumenberg, qui est un commentateur allemand, et qui a publié un texte qui s'appelle « Le scandale de la métaphorologie ». C'est un texte très très savoureux. Et donc le titre de ma conclusion, c'est « Le scandale de la métaphorologie et l'inconceptuabilité ». En réalité, c'est assez saisissant de voir comment le bateau Blumenberg change de cap. Nous sommes en 1979, Blumenberg publie donc ce petit volume qui s'appelle « Naufrage avec spectateur », vous l'avez peut-être lu, et il revient sur sa métaphorologie en pratiquant un tournant vraiment très important. On a le sentiment que la cible, l'objet de référence, hein, ce qui importe, ce n'est plus tellement la métaphore, mais ça devient le domaine d'application, le domaine plus fondamental de ce qu'on va appeler le domaine de la Unbegreiflichkeit, c'est-à-dire de l'inconceptuabilité. L'inconceptuabilité. En fait, je pense que le renversement de perspective est complet. Je cite, « La métaphore ne doit plus être prise que, dit Blumenberg, la métaphore ne doit plus être prise que comme un cas particulier relativement restreint de l'inconceptuabilité. Le jeu de la métaphore ne se comprendra que par rapport à une problématique bien plus large et plus redoutable qui est celle de l'inconceptuabilité. C'est-à-dire que la question de la métaphore, curieusement, n'est plus relative à, mais devient véritablement absolue. J'ai envie de dire qu'il ne s'agit plus de viser un peu comme dans l'histoire des herméneutiques modernes, prémodernes et modernes. Il ne s'agit plus tellement de viser par la métaphorologie une espèce de méthode subsidiaire qui vient donner un coup de main à de grandes disciplines, par exemple l'histoire des concepts, un petit peu comme les anciennes herméneutiques qui donnaient un coup de main aux juristes, aux théologiens, peut-être même aux philosophes, et pratiquer ce qu'on pourrait appeler une herméneutique régionale, qui est une espèce de critique historique, au fond, que nous pratiquons aussi. Il faudra attendre, dit-on, Schleiermacher, c'est plus compliqué, pour avoir une herméneutique générale. Eh bien, la métaphorologie, curieusement, pourrait passer comme une métaphorologie régionale, alors qu'il faut la voir de façon beaucoup plus large, associée à la problématique de l'inconceptualité. Il me semble qu'à partir du début des années 80, Blumenberg développe une perspective radicalement ontologique. Si on veut bien considérer que le caractère d'inconceptualité n'est pas juste un aspect épistémologique, mais est travaillé comme une qualité proprement ontologique. On change de cible, le thème n'est plus de voir comment se constitue de briques et de brocs, vaille que vaille, la conceptualité ou les concepts, il s'agit plutôt maintenant de rencontrer le monde de la vie. Parce que figurez-vous que c'est inconceptualisable, c'est assez largement la Lebenswelt, dont on n'avait pas encore le nom, mais ça, la chose n'est pas le plus important. La métaphore, désormais, devient, je cite, « le fil conducteur du regard porté sur le monde de la vie ». Il doit donc, je cite, « s'intégrer, donc le jeu de la métaphore, doit donc s'intégrer dans l'horizon plus vaste d'une théorie de l'inconceptuabilité, vous entendez bien, théorie, inconceptuabilité ». Métaphorologie. C'est sous cet horizon que se pose désormais la question de la métaphore et de sa supportabilité. En effet, comment se fait-il, demande Blumenberg, que nous supportions, que nous tolérions, que nous saisissions ce qui est le dérangement relatif de la métaphore. Et donc, il ne s'agit plus désormais de voir l'embarras du presque concept, comme on se parlait tout à l'heure de quasi-absence ou de quasi-présence. Il s'agit de sortir de ce modèle-là. Il ne s'agit plus de voir comment le dérangement d'une concordance normale, d'un ordre sémantique, d'une cohérence dévisée ne fait pas foncièrement problème. Il ne s'agit pas simplement de voir comment la métaphore introduit dans le discours un contexte étranger, un élément hétérogène, que la conscience va intégrer, parce que la conscience a beaucoup de possibilités métaboliques. Elle va intégrer, la conscience va réparer le dérangement, dit Blumenberg. La conscience va pouvoir réduire l'écart, elle va rétablir la concordance minimale, elle va corriger l'accident, on est presque chez Husserl tout d'accord. Ou on va pouvoir toujours réduire la discordance, d'une certaine manière, en passant à un niveau supérieur. Donc plutôt que de travailler dans ce modèle, nous allons cibler l'indicible contre Wittgenstein. En nous disant que le moment venu, nous en dirons quelque chose. Il n'y a aucune raison de le taire. On va viser l'indicible, on va viser l'inexprimable, que l'on va dire, en quelque sorte, dans une nouvelle espèce de métaphore que Blumenberg découvre à cette occasion-là, ce qu'il appelle la Sprengmétaphorique, c'est-à-dire des métaphores à la fois explosives et paradoxales, qui vont, d'une certaine manière, doubler la contorsion sémantique et que l'on trouve, dit-il, assez largement dans le fil de la tradition, dans la tradition de la théologie négative. Ça ne se prend pas. Bah, de nouveau, vous comprenez que Vico n'est de nouveau plus très loin. Vico, c'est décidément comme un continent dont on fait le tour, et qu'on aperçoit tantôt à bâbord, tantôt à tribord, mais la navigation continue. Alors je conclue. La longue navigation métaphorologique de Blumenberg a, mes yeux, heureusement clôturé son naufrage. Je ne lis pas comme un naufrage de la fin de sa vie. Eh bien, cette longue navigation n'a jamais perdu de vue Vico. Vico, c'est-à-dire le phare, le point lumineux qu'on dépasse, mais qui continue à orienter la route. Merci de votre attention.
Merci pour une belle conférence. Il est rare d'entendre parler de Blumenberg parce que j'ai l'impression que c'est un auteur qui est encore difficilement assimilé, donc il est aussi compliqué à lire, difficile, il n'est pas traduit, il n'est pas la manière dont ça commence. Mais bon, j'ai plusieurs questions sur Blumenberg. Toujours par intérêt, on a eu l'occasion de lire Blumenberg par le biais de Bernard Debel.
Ah oui,
il nous a imposé l'égalité d'un Neuss. Et je me demandais justement, c'est la première question, en quoi, parce que là il développe quand même une idée de la modernité à partir de la théologie absolue, ou de l'idée du Dieu absolu, et d'une contingence très profonde de la réalité.
Oui.
Et c'est sur ce contexte-là qu'il essaie de développer la philosophie cartésienne. Et je me pose justement la question en quoi justement son propre projet n'est pas en continuité de ce qu'il dit justement, de cette légitimité de la modernité, mais pas simplement une sorte de radicalisation de cette idée de la contingence pure de la réalité, puisque de toute façon le réel a été créé par un Dieu absolu et arbitraire. En quoi justement avons-nous encore accès direct au réel, et si cela est vrai, alors en effet, donc les concepts ne sont pas plus directs que les métaphores, les images, etc.
Alors, c'est une question gigantesque que tu poses, évidemment, et je ne suis pas en mesure d'y répondre adéquatement, mais je peins pas vers la réponse. Je pense que c'est en tout cas une chose qui m'apparaît pour l'instant dans mes lectures de Blumenberg, c'est à quel point il a pu être contaminé par ce qu'il a décrit. De la Neuzeit, des temps modernes. Au sens où, et sur ce point-là, je ne l'imaginais pas aussi proche de Vico à nouveau, parce que je crois que Vico est très présent, d'ailleurs, il est très présent dans l'ouvrage, hein, sur la légitimité, comment on est bien dans cette idée que Leibniz a consacrée dans son ouvrage sur l'idée de verum, c'est-à-dire du réel et du vrai, et du factum, qui est comme on voit tout le tour. Hein. Cette idée que ce qui est vrai, c'est ce qui est fait. Et que par conséquent, là c'est Vico, mais je crois que Blumenberg est très proche de ça, la réalité, elle a été faite par Dieu qui seul la comprend. Et d'ailleurs, dans un texte, Blumenberg revient sur une des condamnations qui date de je ne sais plus quelle époque, où est considéré comme anathème des hérétiques qui veulent lier, c'est à propos d'Origène, qui veulent lier la création à l'intelligence de Dieu, en montrant que la création n'est pas limitée par l'intelligence de Dieu, qui elle-même est infinie, même toute une histoire. Reste tout de même que la réalité, c'est l'affaire de Dieu. Et d'un Dieu qui ne se révèle pas, contrairement à ce qu'on peut penser, en tout cas pas comme ça. Et que donc, le monde de l'histoire, c'est-à-dire la Kulturwissenschaft, c'est-à-dire les Geisteswissenschaft, c'est-à-dire le monde de la culture, le monde humain, ça c'est vraiment l'affaire des hommes, puisque c'est nous qui le faisons. Et on est donc toujours dans une espèce de tautologie, puisqu'on ne peut connaître que ce qu'on a fait. Alors, ça je ne suis pas sûr que ça soit 100% vrai chez Blumenberg, mais je crois que c'est 100% vrai chez Vico, et que c'est très proche, effectivement, des auteurs qu'il peut lire dans les temps modernes. Donc là, il y a une forme de déconfiture finale, si on regarde les choses de cette manière-là, à laquelle je me résous difficilement. Donc j'essaie une pirouette, mais je ne suis pas encore très au point, parce que je crois que ça ne peut pas être le dernier mot de Blumenberg, qui est quand même un peu...
Moi, j'ai une question plus générale. Qu'est-ce qu'on gagne, à votre avis, comme stratégie interprétative ou comme stratégie philosophique avec la métaphore, un rapport à l'image qui a été la grande stratégie d'introduction au monde de la culture moderne, de la lumière?
Alors, c'est une question gigantesque aussi, ça, Francisco, parce que qu'est-ce qu'on gagne j'ai envie de dire que Blumenberg, du point de vue de Vico, vous dirait que, ben, qu'on gagne ou pas, on n'avait de toute façon pas le choix, parce qu'on commence par ce qu'il a été nommé une métaphysique poétique, c'est-à-dire une métaphysique. On est très proche de Rousseau, hein, je ne l'ai pas dit, mais on voit bien les enjeux, hein, de nouveau. On est dans un âge où on vit très profondément la corporéité, et où on va partir de ce qu'on vit, de ce qu'on sent, de ce qu'on perçoit, pour projeter un monde abstrait, hein, et Vico le montre ça très très en détail. Et donc on est toujours dans cette notion de Übertragung, en grec c'est métaphora, c'est-à-dire on est toujours dans ce transfert, partant d'un connu vers un inconnu. Et puis progressivement, il y aurait effectivement formalisation, non seulement formation, mais formalisation. C'est assez intéressant que la question que vous posez, Francisco, on pourrait la reprendre en termes presque foucaldiens, c'est-à-dire que montrer comment il y a bien une logique qui existe, qui vise une universalité de plus en plus générale, et où il y a à côté un autre chemin qui serait un chemin de l'analogie ou analogique, où on va obtenir effectivement aussi un grand gain de connaissances, mais simplement par contiguïté de similitudes relatives, effectivement. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne ? Je sais que vous ne faites pas allusion au fait de passer son temps à des études historiographiques, parce que ça, c'est le job, on le fait si on veut, mais je pense qu'on se remet dans la perspective d'une forme de représentation, de la représentation de la réalité. Alors, je m'arrête un instant pour rappeler une chose que j'avais dite au cours. Je vous rappelle que d'un point de vue simplement neuroscientifique, on a des données qui sont tout de même assez intéressantes aujourd'hui et qui viennent repercuter les classifications que nous avons. Hein. Je pense à la sémantique cognitive qu'on développe. Je vois comment on peut calculer, alors ça c'est très positif, il se doit tout à coup bien entendu, hein, mais comment on peut quand même calculer les délais de réponse sur un certain nombre de questions qui vont porter sur des items qui sont plus ou moins métaphoriques, qui sont plus ou moins associés dans un modèle sémantique. Je veux dire qu'il y a du réel à gratter de ce côté-là, hein, du bout des ongles. Mais c'est une question. Petite remarque, je crois qu'il est urgent, je ne l'ai pas encore très sérieusement, de croiser Blumenberg avec Ricoeur métaphorique. Parce que je crois qu'on trouve une rigueur dans la description ricoeurienne qu'on ne trouve pas chez Blumenberg. J'étais assez frappé de, sauf erreur, hein, si je me trompe, vous me corrigez, mais je n'ai pas trouvé une mise au point très sérieuse de la notion de métaphore chez Blumenberg. C'est comme si ça se donnait, hein, d'entrée de jeu, mais ça fonctionne pas mal. Quand Ricoeur fait remarquer que tout de même, il y a des processus qu'on peut nommer métaphoriques, c'est de la linguistique, bien entendu, mais qui sont soit des zones tampons où je vais dire que la femme est une rose, on voit bien que c'est femme et c'est rose, mais qu'il y a aussi d'autres trucs, d'autres manières de faire de la métaphore, notamment de la métaphore filée, en ayant des espèces d'expressions ou de syntagmes, les effets ne sont évidemment pas les mêmes. Et pour tout ça, c'est pas thématisé parce que ça n'intéresse pas énormément notre ami Blumenberg, hein, ça il faut le reconnaître. Alors peut-être que c'est peut-être une discussion d'apothicaire et ça n'a aucun intérêt philosophique, mais j'en suis pas si sûr. Et donc je crois qu'il est vraiment important de mettre en collision Ricoeur et Blumenberg sur ces questions-là, hein, dans le sens de votre question.
Oui, mais c'est un petit peu lié à la précédente. C'est quand tout le monde vous a parlé de la puissance de la vérité de tout le monde, que vous allez chercher, vous avez fait deux expressions, la Madeleine de Proust et.
Oui, les fameux petits. Les pavés.
Et les pavés,
oui.
Et, mais j'ai l'impression que c'est.
Ça, c'est de Deleuze qui est Proust. Hein.
D'accord. Mais moi, je trouve que c'est évident parce que dans le cas de la Madeleine de Proust, je trouve que le lien est très clair. On a appris les deux, c'est la Madeleine. C'est le genre de logique langagée, alors que dans le cas du pavé sur lequel on bute, il n'y a rien de compréhensible, rien qu'on puisse, on ne peut pas interpréter ça, ce serait juste une causalité physique. Davidson, ces expressions du coup sur la tête, pour moi, être parlant, parce qu'on voit vraiment le coup sur la tête, le cerveau qui peut l'idée, si on peut dire comme ça. Et alors, donc je trouve que la veine de coup, c'est le coup sur la tête, le pavé sur le coup, c'est deux choses très différentes. Et où se situerait la métaphore à travers, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de Madeleine, sinon elle devrait être traduisible dans un langage tout à fait littéral, et alors qu'on perd l'intérêt de la métaphore. On ne peut pas non plus vraiment dire que c'est comme un coup sur la tête, parce que sinon, quelle est la différence entre une métaphore ou n'importe quel autre processus linguistique, n'importe quelle autre image, n'importe quel autre événement physique, et qu'est-ce qui expliquerait que certaines métaphores fonctionnent alors que d'autres ne fonctionnent pas. Donc je vois pas très bien si tu l'avais pas fort dans cette
question. Mais merci beaucoup pour l'application avec laquelle vous posez les choses. Donc j'essaie d'y répondre avec le même respect des choses pour qu'on se comprenne bien, qu'on se comprenne bien. Moi je pense que vous, a priori, vous n'avez pas de bonne raison de distinguer le stimulus sensoriel du bout des orteils qui viennent heurter un bout de trottoir et un stimulus sensoriel perceptif qui vient titiller les papilles gustatives de quelqu'un qui est en train de manger une biscotte. Ça, c'est dans les manuscrits préparatoires et finalement la Madeleine de Proust. Dans la mesure où ces deux événements, plus ou moins traumatiques, ça je connais que ce n'est pas la même intensité, ces deux événements apparaissent comme des stimulateurs qui vont ouvrir un champ, par exemple un champ de désir, des souvenirs qui vont revenir, des sensations qui vont revenir. On est bien d'accord que c'est de ça qu'on parle. Donc d'un côté, j'ai une sensation sur le bout des lèvres ou sur le bout de ma langue, ça me fait penser à, et de l'autre côté, je me cogne et ça me fait penser à. À ce moment-là, je ne vois pas comment, sauf à penser qu'on aurait, par exemple, des systèmes sensoriels différents, et ce n'est pas le cas, même si c'est périphérique dans le cas du pied et que c'est un nerf crânien dans le cas de la bouche, on n'a pas de raison de distinguer les deux situations. Mais dans les deux situations, ce que Deleuze veut indiquer, ce n'est pas trop la question de la métaphore, c'est la question d'une vérité qui vient à ma rencontre. Une vérité qui vient à ma rencontre et qui vient d'une certaine manière s'imposer à moi, qui me tombe dessus. Sauf que c'est par en bas ou que c'est par en haut, on pourrait le dire comme ça. Et à partir de là, on va pouvoir comprendre la métaphore qui est discutée par Bloomberg, à savoir que ce processus de vérification, ce processus de vérité, montre bien que la vérité est puissante. Ce que Hume dira à sa manière en disant la vérité, c'est la force. Et quand Bloomberg fait allusion, je suis en train d'hésiter. Oui, c'est Bloomberg qui fait allusion à ça. Il cite une phrase de cette fois-ci de Vico, mais cette fois-ci en latin, en disant au fond, l'esprit, mens enim semper, urgetur. Bah oui, c'est ça. Donc, l'esprit est donc toujours urgetur, c'est le verbe urgens, urgence, ça presse, ça pousse. Ça presse. Donc l'esprit est toujours pressé, toujours poussé par le vrai. Ah, oui, urgetur. Et donc, on essaie de dire tout à coup, plutôt que de dire que la vérité est belle, qu'elle est grande, qu'elle est haute, qu'elle est difficile, qu'elle est, on va dire qu'elle est puissante et qu'elle nous tombe dessus. C'est dans cet esprit-là, vous comprenez? Donc ça ne répond pas forcément aux questions que vous posez, mais c'est ça le cadre de départ. Après, vous me dites, comment se fait-il que certaines métaphores sont acceptables ou pas? C'est ça que vous dites.
Oui, c'est ça. En quoi la métaphore sera un outil privilégié de la vérité? Et pourquoi certaines fonctionneraient et d'autres pas?
Oui. Alors, c'est deux questions différentes. Outil privilégié, disons outil de vérification, est-ce que la métaphore peut conduire à une forme de vérité? Ou ce que d'autres la métaphore est du côté des inventions humaines ou des préjugés des théologiens, comme dirait l'autre. Alors, l'idée de Bloomberg, c'est qu'au minimum et au maximum, la métaphore nous conduit vers de la vérité, il y a de la vérité dans la métaphore, et au maximum, la métaphore est le seul chemin qui nous conduit près, non pas de la vérité, mais dans l'approximation de l'inconnaissable ou de l'inconceptualisable. Et donc là, on ne parlera pas de vérité, mais on pourrait peut-être parler d'un séjourner auprès d'eux. Vous savez, c'est pas rare dans la tradition occidentale où on fait allusion à quelque chose qui est de l'ordre d'une terre promise, à laquelle on pense bien arriver un jour, mais dont on n'est jamais sûr qu'on y entrera tout à fait vivant. Bon. C'est un peu cet ordre-là. La deuxième question est beaucoup plus simple, parce que c'est une question qu'on pourrait dire empirique. Pourquoi certaines sont-elles plus acceptables, plus tolérables, plus compréhensibles? Alors là, j'ai envie de dire qu'on a des modèles de continuité, de discontinuité, et on a fait des manips qui sont assez marrantes, parce qu'on peut montrer que, par exemple, pour reprendre cet exemple un peu ridicule des femmes et des roses, ou des femmes et des oiseaux, et bien une petite analyse componentielle montre qu'au fond, un lexème, un substantif, c'est un ensemble probablement fini, mais on n'en sait trop rien, d'éléments significatifs minimaux qu'on appelle des sèmes, et même chose pour les autres, et que c'est de la théorie des ensembles assez élémentaire, on peut montrer une intersection relativement riche de sèmes communs. Et on pourra faire l'hypothèse que plus il y a de sèmes dans l'intersection, moins il nous faudra des millisecondes pour faire clic. On a des données là-dessus. Et on sait qu'avec des patients cérébraux lésés, on doit utiliser d'autres circuits. Mais ça, c'est presque empirique. Pourquoi est-ce qu'il nous faut plus longtemps pour étudier tel ou tel mot en fonction du nombre de syllabes? Enfin voilà, c'est probablement moins l'enjeu, probablement moins philosophique, mais c'est un enjeu important.
Est-ce qu'on va devoir simplement pour cette fois-ci, si on aura une présentation ensemble?